France Culture. Les nuits de France Culture.
Si vous connaissez et si vous aimez l'Auvergne, ses paysages, ses traditions, son histoire, vous avez peut-être entendu parler de l'un de ses plus grands écrivains, Henri Bourrat. On lui doit un roman aux allures d'épopée facétieuse, publié dans l'entre-deux-guerres, Gaspard des Montagnes. Au-delà de ce texte de bravoure, l'œuvre de Bourrat constitue un vibrant hommage aux contes et aux traditions orales de l'Auvergne d'antan. Il faut dire quelques mots de la biographie d'Henri Bourrat, notamment pour ce qui concerne son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Chantre de l'enracinement, il accompagne la révolution nationale du maréchal Pétain avant de s'en détacher. Au-delà de cette proximité initiale, on ne lui connaît pas de fait de collaboration et de fait il n'est pas inquiété après 1945. En 1987, lorsque l'équipe du Pays d'ici réalise une série d'émissions autour de l'Auvergne d'Henri Bourrat, à l'occasion des 100 ans de la naissance de l'écrivain, cet aspect de sa vie n'est presque pas mentionné, sauf par quelques mots très imprécis, dans le deuxième épisode. On peut le regretter. On peut aussi y voir une volonté de Christian Neve, producteur de l'émission, de s'attacher à la compréhension de l'œuvre et de l'imaginaire fantastique d'Henri Bourrat, au-delà des événements de sa vie. Voici donc le premier volet d'une série du Pays d'ici depuis Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Première diffusion de cette émission sur France Culture le 5 mai 1987.
Et le Car Studio se trouve très précisément sur la place du Montel à Ambert. Bonjour. Et très précisément, Ambert se trouve à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, en fait sur un ancien passage à gué de la vallée de la Dore, entre les montagnes du Livradois à l'ouest et la chaîne du Forez à l'est. Pour le reste, il semble que ce lieu sous le ciel auvergnat soit un lieu privilégié. En effet, à Ambert sont nés Alexandre Vialat, Pierre de Nolhac, Emmanuel Chabrier, Olivier Messiaen et Henri Bourrat. Henri Bourrat, dont on fête cette année le centenaire de la naissance, et qu'évoqueront les interlocuteurs de cette première émission de ce Pays d'ici, donc en Pays d'Ambert. Mes interlocuteurs, ce seront, par ordre d'apparition, Pierre Rimbaud, qui est enseignant ici à Ambert. Ensuite, nous entendrons Madame Marie-Antoinette Bannière, qui habite elle aussi à Ambert, qui était une proche d'Henri Bourrat. Nous entendrons le témoignage de Félix Bouche, qui lui aussi a connu Henri Bourrat, mais qui est agriculteur dans un village au-dessus d'Ambert. Et je recevrai en direct Dany Hadjadj, qui est professeur à l'université de Clermont-Ferrand, qui est linguiste, qui s'intéresse de très près à l'œuvre d'Henri Bourrat. D'Henri Bourrat, on connaît généralement Gaspard des Montagnes et puis également le Trésor des Contes, mais son œuvre est multiple, généreuse, et outre 7 romans et puis les 10 volumes du Trésor, il avait publié de nombreux essais, il avait étudié aussi l'histoire, la religion et largement célébré l'Auvergne, ses paysages et ses légendes. Et afin d'évoquer tout d'abord et très rapidement Gaspard des Montagnes, qui est une sorte d'épopée paysanne, comme on dit, qui relate entre autres une histoire d'amour tragique entre deux protagonistes, afin d'évoquer ce livre et la mémoire de l'écrivain Henri Bourrat, retrouvons dans quelques instants Pierre Rimbaud devant un monument qui est élevé au cœur de la ville d'Ambert et qui est dédié donc à Henri Bourrat et à Gaspard des Montagnes.
il s'agit de blocs de pierre, de granit, taillés dans la masse par le sculpteur Jean Chauchard de Moissa. Moissa qui est une petite bourgade de la banlieue de Pont-du-Château.
Alors tout ça, c'est une affaire d'Auvergne.
C'est une affaire d'Auvergne.
Alors ça représente quoi, ce personnage? Eh
bien, vous avez au centre, je suppose, Anne-Marie et Gaspard. Gaspard qui prend dans ses bras Anne-Marie, qui essaie de la prendre dans ses bras. Mais vous voyez que tout est menacé, et leur bonheur est menacé.
Ce sont donc les personnages de Gaspard des Montagnes, Harry Pourra, et ils sont menacés, comme vous dites, par une sorte de bête, style bête du Gévaudan.
Voilà, c'est ça, au-dessus, c'est la galipote.
Ah, c'est la galipote.
C'est la galipote, l'eau galipote, comme on dit en Auvergnat. Vous avez au-dessous un personnage qui ricane, sans doute quelques diables ou quelques maléfices. Et sur le côté droit, il s'agit des joueurs, des musiciens. Vous voyez le joueur de vielle à droite et l'autre qui doit jouer de la cabrette, je suppose.
Dites-moi, Pierre Rimbaud, tous ces personnages sont nus et ont des positions assez lascives. Je ne savais pas qu'il y avait autant de sensualité dans l'œuvre d'Henri Pourra. Là.
La sensualité n'est pas absente dans l'œuvre d'Henri Pourra. Henri Pourra est quelqu'un qui peint l'homme globalement. Bien sûr, il y a beaucoup de religiosité, mais vous savez, la religion n'est pas du tout l'ennemi de la sensualité, même si on a pu le croire parfois.
Et on va terminer avec la lecture de cette phrase qui est inscrite donc sur un bloc, là, devant nous. Allons, pourtant le monde est mauvais, mais l'amitié sauve tout. Bon, c'est une phrase de Pourra qui est extraite
de... C'est l'épilogue de Gaspard des Montagnes. C'est tiré de l'épilogue de Gaspard des Montagnes. Et vous voyez, regardez Henri Pourra qui nous regarde en riant et en souriant. Ça ne manque pas de finesse, ce sourire aussi.
Je dois préciser que Pierre Rimbaud participe activement aux journées Terre d'Auvergne sur Henri Pourra qui se tiendront à Ambert et dans la région les 16 et 17 mai. Pour sa part, Pierre Rimbaud, qui est professeur au lycée d'Ambert, je vous le rappelle, donnera une communication sur le thème langue et culture régionale dans Gaspard des Montagnes. Nous aussi, nous ferons quelques excursions dans la région, mais pour l'heure, nous restons à Ambert. Nous y retrouvons une habitante, Marie-Antoinette Bannière, dont le mari, Jean Bannière, était avocat et était un ami intime d'Henri Pourra. Il faut savoir que les parents d'Henri Pourra tenaient un magasin à Ambert, dont il reste l'inscription. Et pour commencer, j'ai souhaité que Marie-Antoinette Bannière évoque ce magasin et les habitudes d'Henri Pourra, de sa famille et des clients du magasin.
Très grand magasin et dans lequel quand on allait faire des achats, eh bien on faisait une visite et Madame Pourra était très aimable et on s'assoyait et on parlait de beaucoup de choses différentes, parfois même de littérature, ça arrivait. Et il m'est même une fois où j'étais allée faire un achat, au moment où j'arrivais, Madame Pourra m'a dit: vous venez de voir sortir un monsieur, et ce monsieur c'était Ramuse, le Suisse, qui venait voir Henri Pourra.
Et donc Henri Pourra a pratiquement été élevé dans ce magasin?
Oui, Henri Pourra il travaillait souvent par derrière, tandis que son père était célèbre pour son café, son merveilleux café, et qu'il le tournait lui-même, qu'il le faisait brûler lui-même dans le fond de son magasin.
Alors, de quelle façon avez-vous connu, vous, Henri Pourra, par quel hasard de l'existence?
Alors, Henri Pourra allait voir les vieilles personnes, et c'est comme ça que je l'ai connu tout enfant, parce qu'il venait voir ma grand-mère, qui était très âgée, qui, ayant vécu pas mal à la campagne où elle avait des propriétés, connaissait énormément de contes, de légendes, et alors il venait les lui faire raconter. Et c'est comme ça que je l'ai vu pour les premières fois. Et il m'impressionnait un peu parce que il était grand, et il était habillé de façon assez particulière. Il avait une espèce de veste, une veste avec le col officier. Il avait une culotte, des guêtres souples. Et souvent, quand on le voyait dans la rue, il avait une cape, une grande cape, et son chapeau. Alors, quand j'avais 13-14 ans, je trouvais que c'était un très bel homme.
Dans la période qui a suivi la Première Guerre mondiale, de qui se composait le monde d'Henri Pourrat, le cercle de gens qu'il côtoyait ?
Bien, il avait des amis, bien sûr, des amis. Il aimait beaucoup les jeunes. Alors, il y avait des jeunes gens qui allaient le voir, parmi lesquels surtout Alexandre Vialat. Mon mari est allé par moments, il allait faire des promenades avec lui. Il y a eu aussi Marguerite Soleillant, qu'il a beaucoup conseillé et qui elle-même écrivait des vers. Il y avait d'autres. Et puis tout, pas mal d'écrivains, de passages, des gens alors qui allaient se promener un peu avec lui. Mais autrement, on ne peut pas dire que ce fut un homme mondain. Pas du tout. Pas du tout. Il fuyait tout ce qui était mondanité et il refusait toute invitation qui aurait été purement mondaine.
Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière qu'il ne partageait pas véritablement la vie de ces bourgeois d'Ambert ?
D'une certaine manière, peut-être oui, parce qu'il allait beaucoup à la campagne. Il recherchait le contact avec la paysannerie et surtout toutes les vieilles personnes de la campagne qui connaissaient des quantités d'histoires. Mais il ne refusait pas d'aller dans des familles bourgeoises, à la condition justement, comme le grand-père de mon mari aussi le recevait pour raconter toutes ces vieilles histoires qui étaient dans les mémoires des anciens.
Mais on le percevait de quelle façon dans la ville ? Un petit peu comme vous, petite fille, comme quelqu'un d'un peu mystérieux ou comme un original avec une légère connotation de péjorative ?
Je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose de péjoratif, non, sûrement pas. Mais il y en avait certainement des personnes qui ne le prenaient pas très au sérieux, surtout au début. Après avoir écrit Gaspard des Montagnes, ça a été différent parce qu'à ce moment-là, il avait déjà une notoriété. Mais avant, je sais que certaines personnes disaient « Oh, ben c'est le fils ou le petit-fils d'un tel. » À ce moment-là, on ne le considérait pas encore comme un grand écrivain. Tandis qu'après qu'il ait eu le prix du Figaro, ça l'a déjà beaucoup plus lancé. Et puis alors, il a été connu dans le monde littéraire et puis il y avait des gens très célèbres qui lui écrivaient. Il correspondait avec Colette, avec des gens très connus. Claudel. Oui, alors à ce moment-là, ça a été, il est devenu vraiment un écrivain, pour tous, pour tout le monde.
Comment est-ce que vous définiriez sa production littéraire ? Vous lui trouvez un côté très, très régionaliste ?
Par certains côtés, c'est-à-dire que quand il fait une description, c'est notre pays. Dans Gaspard des Montagnes, évidemment, c'est le pays. Et il y a des descriptions merveilleuses, des descriptions qui sont superbes. Qu'on n'apprécie pas quand on est jeune, qu'on apprécie plus âgé. Moi, j'ai lu Gaspard des Montagnes, au début j'avais peut-être 13 ans, 13, 14 ans. À ce moment-là, on cherche l'histoire et on passe par-dessus les descriptions. Tandis que plus âgé, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié toutes ces descriptions du pays. Mais cela passe beaucoup la région parce que nous avons eu une certaine année, c'était en 1972, oui. Nous avons fait une exposition sur Henri Pourrat qui a été ici et aussi à Ambert. Et à ce moment-là, nous avons eu des visites de gens qui venaient de très loin. Et entre autres, je me souviens d'un jeune ménage où la jeune femme était bretonne. Et elle était émue, elle n'était jamais venue dans notre région. Et elle a expliqué que son père leur lisait aux veillées, chaque veillée, il y avait une veillée de Gaspard des Montagnes. Et que son père, qui était breton, lui disait... Je retrouve dans Gaspard des Montagnes toute ma vieille Bretagne.
Immédiatement, l'intervention de Marie-Antoinette Bannière.
Sans doute,
on peut se l'imaginer, on ne racontait pas dans la campagne ambertoise les histoires en 1911 ou après la guerre comme on les raconte aujourd'hui. Il n'empêche, nous avons souhaité entendre nous-mêmes quelques contes en imaginant qu'Henri Pourrat les entendait pratiquement de la même manière. Pour ce faire, nous avons rencontré Jeanne Convert, qui est née dans la région et qui a vécu dans cette tradition rurale auvergnate, tout près d'Ambert.
Oh, ça c'est ma grand-mère. Je suis née dans une grande ferme, près des bois. Mes parents travaillaient au dehors. Et ma grand-mère s'occupait de moi. Elle me racontait des histoires, surtout l'hiver, parce qu'on avait plus de temps. Alors, elle avait la chaufferette sous les pieds. Là, là, vous la voyez, mais je vous la ferai voir en photo, parce que vous n'avez pas vu le costume auvergnat non plus, d'époque. Et alors, moi, je me mettais les coudes sur ses genoux. Et je lui disais, « Mémé, raconte !» Et elle en savait toujours une autre. Et je l'écoutais, vous savez, comme si j'étais le bon Dieu qui me raconte quelque chose. Elle en savait toujours une autre. Vous voulez que je vous en dise une? Alors, il y a bien longtemps, Saint-Pierre a fait ses comptes dans le paradis. Figurez-vous que tous les Auvergnats y étaient. Oh, il a dit, mais c'est pas possible! Il n'y en avait pas un, vous m'entendez, qui avait dit un mensonge. Et il a dit, il faut que je me rende compte. C'est pas possible. Tous les Auvergnats sont là, il n'y aura plus de place pour les autres. Alors il est parti avec un grand bâton. Et il est arrivé, Saint-Pierre, un jour de la foire à Ambert. Et il a trouvé un paysan qui menait son âne à la foire. Il l'avait attaché par une corde, il peinait, il tirait cet âne. Et Saint-Pierre lui a dit, mais où vas-tu avec ce âne que tu peines comme ça? Et je l'emmène à la foire, je veux le vendre. Mais je ne le vendrai pas. Il a plein de défauts. Il est vieux, il est sourd, il n'a pas de dents. Comment voulez-vous, je ne le vendrai pas? Oh, mais Saint-Pierre l'a dit, tu le vendras bien. Mais il ne faut pas dire ça. Il faut raconter des mensonges. Tu diras que ton âne a des qualités. Parce qu'un mensonge, quand il est bien dit, ça passe pour une vérité. Et depuis ce jour, ben les Auvergnats, ben ils sont devenus menteurs. Pas beaucoup, mais enfin un tout petit peu. Vous voyez, elle n'est pas trop longue. Elle n'est pas belle.
Bien sûr que si, elle était belle cette histoire et elle était surtout racontée de belle façon. Ainsi, on peut imaginer que Henri Pourrat recueillait ses contes auprès de personnes qui les racontaient pratiquement de la même manière. Un problème se pose cependant. On peut se demander si ces histoires étaient dites en auvergnat ou en français. Alors avant de répondre à la question, ou plutôt avant de faire en sorte que notre interlocuteur y réponde, je dois vous dire qu'en ce moment, à Ambert, on peut visiter une exposition, qui est une exposition de photographies qui illustre des textes d'Henri Pourrat. Et pour découvrir cette expo, qui se tient dans la mairie d'Ambert, eh bien nous retrouvons dans quelques instants Pierre Rimbaud.
C'est l'exposition Henri Pourrat, Albert Monnier. Eh bien, je vais avoir le plaisir de vous la faire visiter. Pardon. Voilà. Nous voilà donc dans la rotonde de la mairie, la salle d'exposition au rez-de-chaussée. Vous avez la même salle au premier, je vous la ferai voir. C'est la salle des mariages.
Alors, Monnier, photographe, Henri Pourra, écrivain, quelle est l'histoire de cette rencontre ?
C'est une rencontre qui a eu lieu dans la dernière décennie de la vie d'Henri Pourra. Henri Pourra, un jour, reçoit une lettre d'un monsieur, Albert Monnier, qu'il ne connaissait pas. Par contre, Albert Monnier connaissait Henri Pourra, avait apprécié ses ouvrages et lui demandait une préface à un album de photos qu'il voulait faire sur Paris. Photos dont vous connaissez sans doute certaines, comme « Sous le pont de Paris » ou bien « La poignée de main ». Et Henri Pourra, devant ces photos, ce projet d'album, a été très intéressé et a écrit cette préface, tout en disant bien à Albert Monnier qu'il y avait plus de 20 ans, qu'il n'était pas allé à Paris. Mais finalement, il avait une vue un petit peu comme celle de Monnier, une vue synthétique des choses, et sa préface a très bien convenu à l'auteur. Ensuite, ils se sont appréciés réciproquement, ça ne s'est pas fait d'ailleurs du jour au lendemain, c'était de fortes personnalités, et ils se sont aperçus l'un et l'autre que, ma foi, ils avaient la même vision poétique du monde, car, vous le voyez, les photos de Monnier sont très réalistes, mais ce réalisme, finalement, est une reconstruction du monde, une vision du monde très poétique, un petit peu comme les textes de Pourra.
J'aimerais bien que vous nous montriez la photo que vous préférez, vous.
La photo que je préfère, elle est un petit peu plus loin, là. Il s'agit d'une photo représentant une vieille Auvergnate, vous la voyez, voûtée, prise de dos, tenant par la main une petite gamine avec son petit bonnet et suivie de ses deux chiens. Elle avance très difficilement sur un chemin ferré, comme on dit chez nous, c'est-à-dire un chemin avec de gros cailloux. Et on la voit peiner et on la voit partir malgré tout avec volonté dans suivre son chemin, quoi, en somme.
Dites-moi, Pierre Rimbaud, puisque vous enseignez aussi la langue auvergnate, vous êtes professeur de latin, de grec, mais vous enseignez l'auvergnat, vous allez pouvoir répondre à une question que je me pose en toute simplicité depuis que nous nous intéressons à Henri Pourra et à sa façon de parcourir le pays pour collectionner les expressions populaires. D'abord, ces expressions, est-ce qu'il les entendait en auvergnat? Est-ce qu'il comprenait l'auvergnat? Comment ça se passait?
Les paysans s'exprimaient, disons, en français, mais souvent en patois. Et Henri Pourra comprenait parfaitement le patois. Il ne le parlait pas, il ne l'a jamais parlé, mais il le comprenait parfaitement. Et puis, il était aussi l'ami, dans sa jeunesse du moins, d'un grand auteur régional, local. Il s'agit de Régis Michalia, qui a écrit des poèmes en langue auvergnate. Et donc, Henri Pourra appréciait beaucoup cette langue. D'ailleurs, dans son Gaspard des Montagnes, vous avez beaucoup d'expressions auvergnates mises volontairement, parce que si c'est un ouvrage universel, ces personnages ne sont pas de nulle part. Ils ont leurs racines ici. Et il est d'autant plus universel que ces personnages s'expriment naturellement comme les gens devaient s'exprimer ici au début du 19e siècle.
Mais lorsque vous faites référence à ces expressions populaires, vous voulez dire qu'elles sont en auvergnat ou en français ?
Eh bien, vous avez des expressions qui sont auvergnates. Je prends un exemple. Le verbe « djigounet ». « Djigounet », ça veut dire bricoler, ne pas en avancer, tourner en rond. Eh bien, peut-être que si vous aviez demandé votre route en arrivant à Ambert, un Ambertois vous aurait dit « Bon, eh bien, écoutez, il faut passer par là, tourner à droite, à gauche. » Puis finalement, il aurait dit « Écoutez, pour ne pas gigouner, allez donc tout droit, vous tournerez là-haut, à droite, et puis vous demanderez. » Voilà. Donc, si vous voulez, l'auvergnat est passé dans la langue française. Hein? L'auvergnat ne dit pas labourer, il dit charruer. Mais charruer ici, tout le monde est persuadé que c'est un mot français.
Le pays d'ici sur France Culture. Je vous rappelle que nous sommes en direct d'Ambert et notre car studio se trouve stationné sur la place du Montel, tout près de la mairie d'Ambert. Je reçois en direct Dany Hadjadj, qui est professeur à l'université de Clermont, qui est linguiste et qui s'intéresse de très près, nous allons voir comment, à l'œuvre d'Henri Poura, à son travail, cette sorte d'itinéraire finalement entre l'expression orale et l'expression écrite. Alors vous avez comme nous, Dany Hadjadj, écouté les différents témoignages que nous avons produits jusqu'à maintenant, et je crois que vous avez quelques précisions à apporter. Tout d'abord, des précisions d'ordre chronologique.
Oui, alors si je reprends ce qu'a dit Pierre Rimbaud tout à l'heure, je voudrais préciser que le travail de Poura est un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'il a commencé ses enquêtes auprès du menu peuple de la région d'Ambert dans les années qui ont précédé la guerre de 14, c'est-à-dire dans les années 1910-1912. À cette époque-là, dans la mesure où il était immobilisé par la maladie, condamné à vivre en Ambert et condamné à de longues promenades, peu à peu, il s'est intéressé aux dires des gens des campagnes. Et dès cette époque, il a commencé à faire collecte de contes et de chansons. Il semble que les chansons, beaucoup de chansons qu'il a récupérées à cette époque-là, c'était des chansons qui étaient chantées en patois. Par contre, pour préciser toujours ce que disait M. Rimbaud, les contes semblent lui avoir été livrés essentiellement en français. Et nous avons des éléments très intéressants, puisque Poura a participé à la collecte qui avait été organisée par le grand folkloriste Van Gennep, a répondu donc au questionnaire de Van Gennep et a fait paraître dans la Semaine Auvergnate, qui était un journal auvergnat donc de l'année 1913, il a fait paraître 13 contes qui lui avaient été livrés par des dentelières, des laboureurs, des domestiques de la région d'Ambert. À cette époque-là, il a cherché à obéir à ce que demandaient les ethnologues, c'est-à-dire à donner le conte tel qu'il lui était livré par le conteur. Il a donc transcrit ses contes, avec toutes les difficultés que cela impliquait, puisqu'il y avait ce premier passage, disons, du dire à l'écriture. Mais il s'est contenté d'un travail de transcription aussi fidèle que possible, comme le montrent les 13 contes de la Semaine Auvergnate. Mais très vite, Poura s'est rendu compte des difficultés qu'il y avait à se contenter de transcrire des contes. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un conte dit est transcrit, il devient une espèce de fleur séchée, une fleur d'herbier. Et tout le travail de Poura a été justement de faire en sorte que la culture populaire qui lui était livrée par le dire du vieux peuple des campagnes ne devienne pas une culture sclérosée, une culture desséchée. Par conséquent, ce qu'il a essayé de faire, c'est de rendre vigueur, verdeur et vie, dit-il, à cette parole du vieux peuple des campagnes.
Nous allons voir, Dany Hadjadj, en votre compagnie, de quelle façon. Je voudrais que nous évoquions le centre Henri Poura, qui se trouve à Clermont-Ferrand, à la bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, parce que là sont conservés des documents qui appartenaient à Henri Poura, et en particulier un outil de travail, bien que ce soit déjà le résultat d'un travail, ce sont ces fiches d'expression.
Oui, au centre Henri Poura, on trouve en fait toute la documentation qui a servi de base au travail de Poura. C'est donc, disons quelque chose, un instrument de travail extrêmement précieux, puisqu'on va voir vraiment comment un écrivain peut élaborer son œuvre. Un écrivain qui, au départ, n'était pas un écrivain. Poura disait qu'il y avait autour de lui des gens beaucoup plus doués que lui. Par exemple, Jean Gély, son ami dit Jean Lolagne. Et il disait à Pierre de Nolhac qu'il n'avait pour lui que la persévérance et la patience. C'est donc un homme qui est devenu écrivain par hasard. Écrivain par hasard, mais avec un matériau extrêmement riche, emprunté précisément à la culture populaire. Et cela, on le trouve au centre Henri Poura, puisque au centre Henri Poura, outre les manuscrits de l'ensemble des œuvres de Poura, on a ces dossiers de travail. Alors, j'énumère très vite les titres de ces dossiers qui me paraissent révélateurs de la longue quête du dire populaire auquel s'est livré Henri Poura. Contes, chansons, légendes, devinettes, sornettes, historiette, proverbe. Et tout cela va passer dans son œuvre. Tout cela ainsi que ce qui est consigné dans ce qu'il appelait ses cahiers d'expression, c'est-à-dire environ 30 000 expressions qui sont d'origine d'ailleurs extrêmement diverses. Il y a des mots qu'il a saisis au vol au cours de ses promenades, soit des mots patois, soit des mots de français régional, c'est-à-dire utilisés comme étant du français par les habitants de la région d'Ambert. Il y a même éventuellement dans ses cahiers d'expression des expressions littéraires. Pourra était grand lecteur de Rabelais, de La Fontaine, par exemple, et de bien d'autres. Mais ce qu'il y a de tout à fait extraordinaire, c'est que tout ce matériau qu'il a collecté pendant très longtemps, il va en faire la matière même de son œuvre, qui subit une espèce de très curieuse innutrition de tout ce savoir populaire.
Mais c'est un travail de botaniste. Vous utilisiez une comparaison qui va dans ce sens, mais c'est vrai. Il y a une espèce de minutie, de labeur comme ça, très très opiniâtre.
Il y a une extrême minutie. D'ailleurs, Pourra était, comme cet autre promeneur solitaire, enfin, Pourra n'était pas toujours un promeneur solitaire, mais disons, je pensais à Rousseau. Rousseau était botaniste. Pourra l'était aussi. Il y a énormément de textes dans lesquels on découvre la patience, la précision avec laquelle il était capable d'observer la nature autour de lui. Et pour un linguiste, il y a aussi chez Pourra une collecte qui est absolument fabuleuse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette collecte, qui est vraiment une collecte linguistique et une collecte ethnographique, comment cette collecte va être réinvestie dans le texte qui est un texte littéraire.
Et vous êtes là pour nous l'expliquer, mais je voudrais préciser que dans ce centre Henri Pourra, donc à la bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, on trouve aussi la correspondance d'Henri Pourra. Alors je cite comme ça pour mémoire, correspondance avec Jean Paulhan, avec Alexandre Vialat, avec Francis Jeanne. Mais demain, nous rendrons à la bibliothèque pour y rencontrer Claude Dallet, qui a donc la charge de la conservation du centre. Et nous évoquerons également une exposition fort intéressante qui s'appelle « Henri Pourra et le monde à l'envers ». Dany Hadjadj, j'aimerais bien que vous nous donniez un exemple de ce travail, de cet itinéraire de Pourra constamment et pendant des années entre l'oral, ce que lui racontaient les gens dans les fermes, dans les champs, et l'écrit, ce qu'il produisait lui en tant que créateur, qu'écrivain.
Bon, alors je pense qu'il faut insister sur le fait que le travail a été un travail de longue haleine. Je disais tout à l'heure que la collecte des contes avait commencé avant la guerre de 14. Et les contes, Pourra va d'abord chercher à les intégrer à Gaspard des Montagnes. Est-ce que vous souhaitez que j'évoque cet aspect-là très vite ou que j'arrive immédiatement au trésor ?
Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir une idée précise de ce travail de très
Alors,
minutieux.
Arrivons au trésor. Le trésor qui a été, disons, écrit à partir de 46, puisqu'il paraît à partir de 48. Entre 48 et 62, après la mort de Pourra, donc, il y a les 13 volumes de contes. Alors, je vais prendre un exemple d'un texte qui a été fourni à Pourra par Anne des Georges, qui était laboureur au Montel. C'est le conte de la quittance, c'est donc un conte du diable, et on s'aperçoit, si l'on regarde le modèle populaire par rapport au texte de Pourra, on s'aperçoit que Pourra suit de très près son modèle populaire dans la structure du conte et qu'il cherche à intégrer les données qui lui sont fournies par ce conte, mais en changeant d'auditoire, il va être obligé de se livrer à une espèce de transposition. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, le paysan du comte de l'Aquitance, Anet des Georges, raconte que son personnage était là. Un jour, il travaillait dans son pré avec un taille-pré, mais ça le raminait. C'est-à-dire, il ruminait cela, ça le travaillait. Et par moments, il s'arrachait les cheveux d'ennui. Or, il est question de ce taille-pré. Tout le monde, à l'époque d'Anet des Georges, sait ce qu'est un taille-pré. Un taille-pré est un outil destiné à faire les rigoles. Pourra, intégrant ce détail, qui a de l'importance, parce qu'ensuite le paysan va se trouver en enfer, et il découvrira qu'il est en enfer lorsque son taille-pré deviendra brusquement tout rouge. Donc le taille-pré est important. Mais il est important aussi d'expliquer à un public qui n'est plus le public qui écoute, le public réduit, le public rural qui écoute le conteur populaire, il est important de lui expliquer cela. Et Pourra va nous dire, donc, la veille du jour marqué, il était là, taille-pré en main, au milieu de son pré, qui refaisait les rases. Les rases, tout auvergnat sait ce que c'est, ce sont les rigoles d'irrigation. Mais que fait Pourra dans son texte? Immédiatement, il écrit « qui refaisait les rases, virgule, les rigoles ». Il nous donne donc immédiatement une traduction.
Est-ce qu'il lui arrive quelquefois de tricher et de transformer un mot ou une expression française pour lui donner un petit quelque chose d'auvergnat comme ça?
Les choses se font plutôt dans l'autre sens. Je vais prendre par exemple un mot qui apparaît dans le conte de Marie Cendron. Marie Cendron, c'est Cendrillon, dont Pourra nous donne une version qui est une version plus proche des versions populaires, puisque Marie Cendron va rencontrer le prince charmant, non pas au bal comme dans la Cendrillon de Perrault, mais va le rencontrer à l'église, à la sortie de la messe. Bon, donc notre Cendrillon, elle est reléguée dans la cheminée. C'est Marie Cendron, c'est la Cendroune. Marie Cendron ou la Cendroune. La Cendroune, on voit ici le suffixe qui est un suffixe conforme au français régional déjà. Et cette Marie Cendron, elle va être réduite à vivre près de la cheminée et derrière le bujadin. Alors, ce mot bujadin est un mot curieux. Pourra l'explique dans le texte. Le bujadin, c'est la grande jarre à l'aide de laquelle on coulait la lessive. Bon, bujadin, c'est proche, bien sûr, de la forme patoise, le budjodei, que l'on trouve d'ailleurs dans le glossaire de Michalias évoqué tout à l'heure, mais on voit dans les manuscrits comment Pourra a essayé de travailler pour adapter ce mot en fait à un texte français. Il a hésité, il a fait disparaître bien sûr le « je ». Il n'était pas question de garder ce « budjodei », c'était trop proche de la phonétique auvergnate avec l'afriqué. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il passe donc à la forme « je ». Mais on peut être surpris de voir qu'il ne donne pas le « bujadier ». On le voit hésiter dans son manuscrit.
Vous voyez des corrections, par exemple, on voit des corrections.
Alors, j'ai pris cet exemple-là parce qu'on le voit très nettement. Il a d'abord écrit le « bujadan ». Et ensuite, il est arrivé à la forme qui m'avait étonné, le « bujadin ». Et il semble bien que cette espèce, c'est une adaptation. Donc, du mot auvergnat, il semble bien que cette adaptation ait été faite dans un certain esprit littéraire. Vous voyez, vertugadin, etc., des mots comme cela.
Il jongle finalement, enfin, il fait grand écart entre deux systèmes linguistiques.
Il fait grand écart entre deux systèmes linguistiques.
Mais il s'en sort magistralement.
Très bien. Thank you.
je voudrais que nous en venions à un autre thème de conte. Mais auparavant, il nous faut rencontrer Félix Bouche, qui connaissait parfaitement Henri Pourrat. Je crois qu'il a un lien de parenté assez lointain avec lui. Nous l'avons rencontré afin de recueillir de sa propre bouche un conte, toujours à la manière d'Henri Pourrat. Il faut préciser que Félix Bouche habite à Chassagnol. C'est un village qui est au-dessus d'Ambert. On a une très belle vue de là-haut de la vallée et des maisons d'Ambert. Et Félix Bouche, si je l'ai bien compris, affectionne, disons, les histoires, les contes un peu lestes. Et ça expliquera en partie la façon qu'il a de définir lui-même le travail de collection, comme ça, de botaniste d'Henri Pourrat.
Racontait des histoires du pays, quoi. Alors lui, il était comme les femmes quand on leur donne un morceau d'étoffe, elles font une paire de culottes. Et lui, avec ses phrases, des mots, il faisait des phrases. Avec le sujet, il faisait ses contes, ses histoires. Alors, attendez voir, qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? La dot en mariage. Oh, mais elle est triste un peu. Alors, là... Un type, il était venu dans mon pays par là. Il y avait une femme qui avait une bande de filles et de garçons. Et ça va quoi en faire? Les garçons, ça allait travailler, mais les filles, plus ou moins. Et comme elles avaient atteint l'âge de puberté, attention, elles commençaient à se chamailler. Alors elle disait, si seulement je pourrais, d'une, je pourrais m'en débarrasser. Alors tombe un bonsoir, un gamin, attendez, ça s'est passé ici, qui s'amène, il était d'une commune voisine, il lui a dit, « Madame, il y a une fille qui me plaît, est-ce qu'on pourrait, je pourrais l'épouser ?»« Oui. »« Oh, je vais bien, mais, et ses filles et les yeux, ça me fait peine de m'en débarrasser, j'ai l'habitude. »« Bah, d'accord. » Alors, il lui a dit comme ça, « Dites, madame, mais ils ne perdaient pas le nom, les gars, ici aussi. Quel est le montant de la dot, s'il vous plaît ?» Il lui a dit comme ça, moi, on n'a pas beaucoup d'argent. Quand on aura payé les noces et tout, invité les voisins, comme moi-même par exemple, eh bien, on ne restera plus rien. Hein? Alors, je ne peux vous donner qu'une vache. Vous viendrez la chercher. Eh bien, d'accord. Alors, de ce fait-là, deux jours après les noces, il s'est amené avec une trique à la main et la ficelle. Il a dit, dites madame, viens chercher la vache. Ah bon, d'accord. Vous avez choisi la fille, vous choisirez la vache. Il a trouvé celle-là, il a dit, je prends celle-là. Il a dit, dis donc, mon gendre, tu prends celle qui a le plus gros pied et le plus gros tétine. Eh bien, écoutez, belle-mère, je me rattrape sur la vache, parce que pour la fille, c'était le sens inverse, je m'en suis aperçu la nuit dernière.
Je vois avec plaisir que cette histoire vous fait rire, Dani Hadjadj. Alors dites-moi, vous qui connaissez parfaitement le fond, enfin tout le recueil, tout le trésor des contes, est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires un petit peu lestes comme ça? Enfin, lestes, c'est peut-être pas le mot juste.
Lestes, le mot est discutable, oui, quand on parle de Pourrat, dans la mesure où Pourrat était un homme extrêmement pudique. Mais c'était un homme qui estimait que le rire était chose fondamentale, et il y a dans le trésor des contes, au fond, donne un reflet de tous les types de contes populaires que l'on peut imaginer, c'est-à-dire aussi bien les contes merveilleux que les contes religieux, que les contes facétieux. Et il y a toute une veine du conte facétieux, du type de celui que nous a raconté Félix Bouche. Et ces contes facétieux, d'ailleurs, et cela a bien été montré par Claire Pourrat dans sa nouvelle édition du Trésor des Contes, qui vient d'être, dont la publication vient de s'achever chez Gallimard. Claire Pourrat a donc montré, en regardant de près la structure du Trésor des Contes dans la première édition, comment ces contes facétieux avaient pris une importance de plus en plus grande dans le Trésor. C'est une veine.
Pour quelle raison cette importance croissante?
Alors, bon, là. disons que c'est un point d'interrogation. C'est peut-être un des sujets que nous évoquerons lors du colloque qui se tiendra à Clermont au mois de juin sur le thème « Henri Pourrat et le trésor des contes ». Il semble que c'est une veine que Pourrat a trouvée et disons que c'était un type de conte qui apparemment plaisait beaucoup au public. Et en plus, Pourrat avait c'est un conte très court et Pourrat a l'art du trait. C'est un auteur qui est plein d'humour et dans la mesure où le propre du conte facétieux, c'est de se terminer par un trait d'esprit, il excellait dans ce genre de conte. Et il semble qu'il ait mis en conte facétieux même des mots d'enfant, enfin, qu'il a pu recueillir dans son entourage.
Demain, dans notre émission, nous évoquerons ce que Henri Pourrat appelait l'imaginaire des Auvergnats, l'imaginaire fantasque, c'est l'adjectif que je cherchais. Et nous nous sommes rendus compte, effectivement, que très souvent, les histoires de diables reviennent. Alors, vous avez une petite minute, Dania Adjadj, pour nous expliquer pourquoi cette prédilection pour ce thème-là.
Bon, eh bien, je crois d'abord que le thème du diable est un thème important du conte populaire. D'autre part, c'est un thème important, disons, dans une région de montagne. Et il se trouve que le personnage du diable, en fait, apparaît sous des formes diverses. Le diable, c'est le mal. Et l'histoire, l'œuvre de Pourrat, c'est cette espèce de lutte constante entre le bien et le mal. Et il y a diverses figures du diable dans le conte populaire. D'une part, l'ogre, par exemple, les différentes formes du loup-garou, etc.
Mais pourquoi est-ce que les gens de la région parlent aussi volontiers de cela?
Je pense que, cela faisait partie des vieilles peurs, des vieilles superstitions, mais Pourrat a réfléchi sur cette question dans différents essais, et en particulier dans une œuvre qui s'intitule « La belle mignonne » et qui a été construite à partir d'un ensemble de contes auxquels Pourrat a cherché à donner une espèce d'unité, à donner un fil conducteur. Et dans cet ouvrage, il réfléchit sur les contes de la peur, et je vais vous donner un extrait de cette belle mignonne, dans laquelle il dit ceci. « La peur, en ces vieux petits pays de la montagne, aura été l'écrasante charge des pauvres gens. Les autres qui ont pesé sur eux, les affaires qu'ils ont eues avec les gros et avec les méchants, ils en ont fait aussi des peurs. » Ils les ont montés en histoire de draques, de loups-garous et d'ogres, en fantasmagories qu'ils racontaient poussant la voix. Reste qu'ils savaient surmonter même ces peurs. Donc c'est un moyen, en quelque sorte, d'exorciser les peurs qui tiennent à une vie qui est une vie extrêmement rude, une vie où les paysans sont...
Où les conditions de vie sont rudes surtout. Mais ça, nous le verrons demain, donc dans ce pays d'ici. D'accord. En direct d'Anvers. Merci beaucoup, Dania Adjadj. Guy de Lavigne Marquet, François Le Calvez, chargé de réalisation Philippe Sibylle, c'était Le Pays d'ici, première émission à Anvers. Christian Neve, je vous retrouve demain. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 mai 1987. À suivre.